France Inter.
Bonjour toute l'équipe de La Terre au Carré, c'est Jean-Michel Rabajois depuis Annonay en Ardèche. Je me permets de rebondir sur les PFAS qui refont surface. Je me permets une petite promotion de la poêle en fonte à ce sujet, parce que l'inox, oui, l'acier, oui. Mais la fonte, c'est quand même merveilleux. Naturellement anti-adhésive, une cuisson saine et sans danger, ni pour nous, ni pour l'environnement. Incassable, inusable. On peut couper dedans, gratter avec la fourchette, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. On peut la garder plusieurs décennies, on peut la transmettre à nos petits-enfants. Et enfin, plus on l'utilise, moins elle adhère. Un seul inconvénient avec la poêle en fonte, c'est son prix. Mais bon, c'est tout relatif, vu qu'on peut la garder des années et des années. Avec la fonte, c'est pas les polluants qui sont éternels, c'est les poêles. Voilà, merci à tous.
Oui, bonjour, c'est Julie de Guadeloupe, à ADE plus précisément. J'appelle parce qu'il y a aussi un palmier qui est endémique des Antilles, qui s'appelle Acrocomia aculeata, qu'on appelle le glouglou, qu'on peut trouver à Marie-Galante, et qui a aussi des épines qui parfois peuvent atteindre 10 cm, et qui est très bizarre. Voilà, et bonjour à tous les gens du glouglou, c'est une association qui milite ADE pour l'environnement. Et merci pour votre émission.
Bonjour, c'est Isabelle de Courteuil. C'est pour pousser un gros coup de gueule. Le prestataire qui entretient les espaces verts, c'est le massacre à la tondeuse. Les orchidées sauvages qu'on essayait de protéger tant bien que mal, ils dézinguaient. Et là, j'en ai appris une belle. Ils veulent abattre un eucalyptus qui fait tout ce qu'il peut pour avec ses racines pour ne pas gêner le trottoir. C'est le ratiboisage des écosystèmes. C'est décourageant, mais on va lutter avec l'ensemble des locataires du coin. Bonne journée.
Salut, c'est Dush. Je vous appelle de la forêt qui est autour de chez moi, dans la montagne pyrénéenne. Je suis en train de me balader. Après 10 jours d'absence, et je constate 3 nouveaux morts. Bon, après tout, c'est que des arbres, hein. On en a rien peu à péter, les humains. Mais voilà, 3 de plus. Et du coup, ça me fait un peu réfléchir. Et en fait, je me dis que un des problèmes importants des humains, c'est qu'ils sont addicts, drogués, accros au confort. Alors ça va pas vous plaire. C'est peut-être pire que le tabac ou l'alcool. Il faut pas grand-chose, pas beaucoup de doses de confort pour en être complètement drogué. Et ça, je vois pas trop comment on pourrait s'en sortir, puisque c'est un déni sociétal. Pour faire avec, je vous fais plein de bisous, je vous aime et à la prochaine.
Ben voilà, ça fait toujours du bien ces petits messages d'amour. Merci Deux des Pyrénées qui nous appelle de temps en temps sur ce répondeur. À vous tour de nous laisser votre message au 01 56 40 45 45. Dans 2 mois, plusieurs centaines de millions d'Européens seront appelés aux urnes, des élections particulièrement cruciales pour l'action climatique et écologique, alors que depuis 2019, le pacte vert européen vise à accélérer la transition de l'économie et de la société pour limiter le réchauffement climatique et se mettre dans la trajectoire de l'accord de Paris. Ces derniers mois, la crise agricole a montré la difficulté à enclencher la transition à un rythme compatible avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'objectif de neutralité à l'horizon 2050. Et dans un contexte où partout en Europe, les partis dits populistes gagnent du terrain et affichent une hostilité face aux politiques écologiques, comment convaincre les électeurs de l'importance d'aller voter pour réussir l'action climatique? C'est le dossier cet après-midi de La Terre au Carré, avec nos invités que je salue, les députés européens Anne Sander et Pierre Larouturou et Lucille Schmitt de la Fabrique écologique. Bonjour à
Bonjour.
Tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue Anne Sander, vous êtes députée Les Républicains au Parlement européen, négociatrice de la PAC, la politique agricole commune pour le groupe PPE, c'est le Parti populaire européen, la première force politique dans l'hémicycle. Pierre Larouturou, vous êtes député européen Nouvelle Donne au sein du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates et vous venez de lancer le collectif Changer l'Europe. C'est une liste qui veut inciter les électeurs de gauche et les jeunes en particulier à voter pour répondre à l'urgence. Et puis enfin, Lucille Schmitt, vous êtes vice-présidente de la Fabrique écologique qui a pour objectif de promouvoir l'écologie et le développement durable sur, je vous cite, la base de propositions pragmatiques et concrètes. Vous venez de publier un dossier sur les enjeux écologiques de ces élections européennes qui est disponible sur votre site. On se retrouve donc dans un instant pour comprendre pourquoi ces élections du 9 juin sont cruciales pour l'écologie. Et nous attendons bien sûr toutes vos questions dès maintenant sur la page de l'émission et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Et je reviens sur la lettre du Haut Conseil pour le Climat envoyée la semaine dernière au Premier ministre pour faire part de son inquiétude d'un risque de recul sur l'ambition de la politique. politique climatique française. J'ai pu en discuter avec la climatologue Valérie Masson-Delmotte, membre du Haut Conseil, et parler aussi de l'enjeu européen.
Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, dossier préparé par Anna Massardi avec Laurent Baudouin à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
La campagne pour les élections européennes de 2024 ne sera pas celle de 2019. Si la question du climat avait dominé les débats il y a 5 ans, le thème n'est plus aussi porteur aujourd'hui. Selon le sondage Ipsos exclusif réalisé pour Euronews, la lutte contre le changement climatique est une priorité pour 52% des personnes interrogées. Pour 32% des sondés, le dossier est important mais non prioritaire. Selon cette même enquête, 54% des Européens estiment que le pouvoir d'achat est plus important que le climat. Malgré cette désaffection, la lutte contre le réchauffement climatique demeurera un axe prioritaire de la prochaine Commission européenne.
Euronews, c'était en février dernier, les enjeux donc de ces élections pour l'écologie, dossier de la Terre au carré, puisque vous le savez certainement, les 8 et 9 juin prochains, selon l'endroit où vous vivez en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, eh bien vous serez appelés aux urnes pour élire donc les députés français qui siégeront au Parlement européen. Élection majeure pour l'environnement et ce pacte vert qui doit parvenir donc à maintenir ses ambitions pour la neutralité climatique. On en parle donc avec Anne Sander, Pierre Larouturou, député, et Lucille Schmitt pour la Fabrique écologique. J'ai d'ailleurs commencé avec vous, Lucille Schmitt. Question simple pour commencer, qui appelle à une réponse simple. Pourquoi ces prochaines élections européennes sont cruciales pour l'avenir de l'Europe et la réussite surtout de l'action climatique ?
Elles sont cruciales d'abord parce que le GIEC nous le dit, il y a une urgence totale et que la décennie qui est en train de s'écouler est la décennie de tous les records en termes de dégradation et de dérèglement climatique. Elles sont cruciales pour expliquer comment est-ce qu'on peut articuler les enjeux sociaux et les enjeux écologiques. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qui l'emporte, c'est une sorte de petite musique anti-écologique portée par les partis populistes, avec l'idée qu'au fond, la lutte contre les dérèglements écologiques se fait au détriment des plus faibles. Et donc, il est essentiel de pouvoir expliquer que ce sont d'abord les plus faibles qui souffrent des inégalités environnementales. Et enfin, c'est important, essentiel, parce que le projet européen a besoin d'une transformation dans un contexte de guerre, de dérèglements qui ne sont pas seulement climatiques. Il faut pouvoir articuler ces dérèglements pour montrer que l'Europe a toute la force d'être une grande puissance en termes écologiques et tout simplement une grande puissance.
Avec un contexte géopolitique, économique, social qui a énormément changé depuis les précédentes élections il y a 5 ans, Anne Sander. Le journaliste d'Euronews le disait tout à l'heure dans le sujet, le thème en tout cas de l'écologie n'est plus du tout aussi porteur qu'en 2019. Vous avez aussi ce sentiment-là, vous ou pas ?
Je pense effectivement que nos concitoyens sont préoccupés par d'autres sujets. Et nous l'avons toujours dit, c'est vrai que les thèmes écologiques doivent être vus dans leur globalité. Et c'est sans doute là aussi où l'Europe a failli ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a lancé le pacte vert en 2019, au lendemain des élections, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'attentes de ce côté-là.
Et une poussée forte d'ailleurs des partis écologistes.
Tout à fait. On a eu ensuite le Covid, on a eu ensuite la guerre en Ukraine, ce qui a montré aussi les limites de notre mode de fonctionnement, un système de production qui était déjà fragilisé, système industriel, artisanal, agricole évidemment. Et c'est là où les Français et les Européens ont vu qu'il y avait d'autres préoccupations et qu'il fallait tenir compte de l'environnement, mais dans un monde plus globalisé, avec des questions d'inflation, avec des questions de production alimentaire, avec des questions de production énergétique et industrielle. Et ce qui fait sans doute qu'on a, on est revenu sur ces mesures environnementales qui ne prenaient que l'angle environnement, mais qui ne s'occupait pas du volet social et économique.
Pierre Larouturou, donc 2019, lors de la précédente législature, le message des électeurs était donc très clair vis-à-vis des partis écologistes qui avaient gagné du terrain. Donc le Green Deal est né dans la foulée, ce pacte vert pour la décarbonation complète de l'économie européenne. 5 ans plus tard, donc effectivement, vous aussi, vous le constatez, le contexte a complètement changé. Les efforts ne sont pas du tout les mêmes, d'ailleurs, de la part des députés pour essayer de convaincre sur ce front du climat et de l'écologie en général.
Alors, le contexte a changé parce qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a l'horreur à Gaza, il y a l'inflation, mais sur le fond, moi je travaille, j'ai encore vu dimanche dernier Jean Jouzel, les climatologues sont de plus en plus inquiets. Pour préparer cette émission, je suis allé voir l'évolution du CO2. Vous savez, on mesure le CO2 depuis 1958 à Mauna Loa, à 3000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, le CO2 augmente 3 fois plus vite que dans les années 60 et 70. Même l'année dernière, avec l'inflation, la flambée des prix, on a consommé moins d'énergie. Donc le CO2 qui vient de l'économie a un petit peu baissé l'an dernier. Mais les feux de forêt, les méga feux de forêt ont fait plus que compenser. Donc aujourd'hui, le CO2 va dans l'atmosphère, augmente 3 fois plus vite. Et les conséquences sont très claires. Il y a quelques semaines, je suis allé voir les paysans dans le Pas-de-Calais, ils ont tout perdu. C'est des inondations. Et spontanément, ils parlent du réchauffement climatique.
En tant qu'électeur, aller voter, donc aller dans les urnes, là, le 8 et 9 juin, le 8 ou 9 juin, qu'est-ce que ça va changer finalement?
Ça change,
est-ce qu'on
met les financements? Aujourd'hui, la question clé, j'étais le seul élu qui est allé voir les agriculteurs en colère l'autre jour qu'ils sont venus à Bruxelles. Je les ai écoutés pendant 3 quarts d'heure, ils n'ont parlé que de « on veut un revenu décent ». Le prix du lait, on veut que le prix du lait soit respecté. Pendant 3 quarts d'heure, ils n'ont parlé que de la dignité de leur travail, ce qui se comprend. Et puis, il y a une question d'une journaliste en disant « vous n'avez pas parlé du pacte climat ». Et le chef des agriculteurs en colère dit « oui, effectivement, on n'en a pas parlé. Nous n'avons rien contre le pacte climat ». Nous n'avons rien contre le pacte climat. Nous sommes les premières victimes du réchauffement climatique. Ici, il y a des inondations. Ici, au contraire, il n'y a pas une goutte d'eau. C'est même pas la peine de faire des semis parce que les plantes vont crever. Voilà. Et dit, par contre, on ne peut pas être les seuls à payer la transformation. Donc, la demande des agriculteurs aujourd'hui, elle est double. Une politique agricole qui protège leurs revenus et une politique agricole qui leur permet de se transformer. Mais ils sont pas débiles. Il faut arrêter de penser que les paysans, aujourd'hui, s'il y a bien un groupe qui a conscience de l'urgence climatique, ce sont les agriculteurs. Moi, déjà, il y a huit ans, j'étais invité pour l'événement de rentrée des jeunes de la FNSEA avec Jean Jouzel. Et le grand débat, c'était que peut faire l'Europe face au dérèglement climatique. Et le numéro 3 de tous les jeunes agriculteurs disait, ce débat était inimaginable il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on était tous climato-sceptiques. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les agriculteurs. La question est de savoir comment l'Europe nous aide financièrement. Donc, est-ce qu'on met sur pause? Quand Macron veut faire une pause, ce serait juste dramatique. Ce serait catastrophique. Le monstre est en train d'échapper à ses créateurs. Tout ce qui se passe aujourd'hui est plus grave que ce que pensait le GIEC. Est-ce qu'au contraire, on met des financements? J'expliquerai comment on peut être 300 milliards. Aujourd'hui, est-ce qu'on nous aide?
Et
dernier point, il n'y a aucune opposition avec la question du pouvoir d'achat. L'autre jour, j'ai vu un monsieur qui vit dans un HLM et qui dit, ça y est, on a fait une rénovation thermique. Je gagne 800 euros chaque année sur mes dépenses de chauffage. Je gagne 800 euros, c'est plus confortable, et je gagne 800 euros chaque année sur mes dépenses de chauffage.
Anne Sander, la vraie question pour les agriculteurs, c'est celle du revenu, pas celle du climat et de la biodiversité?
Le problème des agriculteurs que je vois, moi, quasi quotidiennement sur le terrain ou quand je rencontre les responsables des organisations professionnelles, les agriculteurs ont plusieurs difficultés. Il y a d'abord la question du revenu. Mais la question du revenu, elle est aussi liée à la question des normes. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que tout le poids des transitions, eh bien, on les fait porter au monde agricole et en décidant, eh bien, de leur mettre des normes supplémentaires et des normes qui ne sont pas cohérentes.
Enfin, il n'y a pas que le monde agricole, qui est soumis à des normes. Les secteurs aujourd'hui, que ce soit le bâtiment, les transports, on parle de normes quand même.
Tout à fait, vous avez bien raison de le souligner. Et dans le combat des agriculteurs, sous le poids des normes, vous retrouvez aussi les industriels, les artisans, qui n'en peuvent plus de normes qui... ne sont pas cohérentes au sein de l'Union européenne.
Donc là,
il faut harmoniser. Et surtout, il faut que la France arrête de surtransposer. Parce que l'agriculteur français a plus de normes que ces pays, que les agriculteurs voisins. Moi, je suis alsacienne. Nous avons la frontière en Alsace avec l'Allemagne. Eh bien, l'agriculteur alsacien, français, a plus de normes que le voisin allemand. Et ça, c'est problématique. Et la deuxième chose, ce sont les normes que nous mettons en place en Europe par rapport à celles qu'il y a dans le reste du monde. Et là, on charge tellement la barque pour nos agriculteurs, on fait augmenter les prix pour le consommateur qui, au final, est confronté à l'inflation et à une hausse des coûts et donc qui se reporte sur des productions venant du reste du monde.
Lucille Schmitt, on a le sentiment que les sociétés européennes aujourd'hui sont plutôt traversées par la tentation de lever le pied sur ce pacte vert avec des appels même à repousser les échéances qui se multiplient, alors même que l'effort autour de ce pacte vert vient juste de commencer. En février dernier, la loi pour la restauration de la nature a été adoptée de justesse au Parlement. C'est un texte crucial pour la biodiversité qui prévoit la restauration de 20% des terres et des mers de l'Union européenne d'ici à 2030. C'est aussi l'un des piliers donc de ce pacte vert européen. Son adoption, ça aurait dû être quasiment une formalité, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que ça dit finalement aujourd'hui de ça?
Ce qui est intéressant sur la loi sur la restauration de la nature, c'est que ça articule les enjeux écologiques au sens biodiversité et les enjeux d'agriculture. Et on a coutume de penser qu'un agriculteur connaît mieux la nature qu'un citadin. D'ailleurs, c'est assez intuitif. Mais la question, c'est que quand on est agriculteur, on transforme la nature. Lorsqu'on veut préserver la biodiversité, il y a l'enjeu de préservation qui est important. Et donc, il y a toute une espèce de conflictualité entre préserver, transformer, et transformer en respectant la biodiversité. Donc, dans l'adoption au forceps de ce texte, puisque pendant 6 mois, on a pensé en fait qu'il n'allait pas être adopté à cause notamment de l'opposition du parti auquel vous appartenez, madame, il y avait l'idée qu'au fond on allait faire la peau des agriculteurs parce qu'on allait préserver la nature. Mmh. Donc c'était ça l'enjeu, et ça illustrait aussi le fait qu'on entrait dans une période préélectorale où à ce moment-là toute voix compte, et où sur les enjeux agricoles, je rappelle que la PAC est la politique emblématique de la construction de l'Union européenne, que c'est l'intrication entre les enjeux nationaux et les enjeux européens est fondamentale sur l'agriculture comme sur la politique commerciale extérieure. Et donc dans cette idée, on prend peu de risques au fond. Quand on va dans une période électorale, on se dit bon, je vais soigner les agriculteurs, la nature ne vote pas. Ce qui est intéressant, c'est que in fine le texte était adopté, certes avec des limitations importantes par rapport à ce que les écologistes...
Ça a été revu,
mais ça a été adopté, ouais. Donc c'est important. Et je voulais juste, pour ne pas être trop longue, dire une chose à propos du pacte vert. C'est que lorsque Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne, est élue pour être présidente de la Commission, pour elle, elle adosse sa candidature à celle du pacte vert, alors même qu'elle n'est pas une écologiste. C'est ça qui était intéressant à l'époque, en 2019, c'est qu'on élargissait d'une certaine manière l'écologie à une sorte
de
majorité culturelle. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, Pierre Laroutourou disait que Emmanuel Macron veut faire la pause, mais le paradoxe, c'est que Ursula von der Leyen...
Sur les pesticides, c'est fait. Hein.
Oui, et Ursula von der Leyen veut aussi faire la pause sur ce qui a permis, au fond, qu'elle soit élue et qui a porté son mandat.
On va y revenir. Anne Sander, juste pour répondre à ça, cette loi donc a été la cible d'une campagne d'opposition, on peut le dire, de la part de votre parti. Vous avez qualifié ce vote donc sur la loi pour la restauration de la nature de très mauvaise nouvelle pour les professionnels du monde agricole. Pourquoi ? Alors qu'on peut imaginer qu'au contraire, une nature en bonne santé, c'est une façon aussi de donner des sols plus fructueux pour les agriculteurs qui vont travailler ensuite.
La manière dont ce texte a été présenté, c'est pas la question de savoir est-ce qu'on agit ou pas pour ou contre la nature. Le problème, c'est dans ce texte, c'est la philosophie du texte. Parce que la proposition phare de ce texte, pour répondre à l'enjeu climatique, eh bien, c'était d'arrêter de produire. Et donc, il y avait 10% de terres qui étaient gelées dans ce texte. Et
donc c'est ça qui a posé problème. Alors, c'est pas arrêter de produire, c'est faire des pauses pour permettre à la nature de se régénérer.
Mais ça veut dire qu'on ne produit pas, alors qu'il y a un enjeu de nourrir la population.
Oui, mais la nature aussi a besoin de se reposer, peut-être,
non ? Dans ce texte, on aurait pu aborder la question en trouvant des solutions innovantes, en trouvant des solutions technologiques différentes, en investissant sur la recherche.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on ne peut pas laisser un sol en jachère, par exemple, parce qu'il faut absolument l'utiliser, il faut qu'il soit utile à la production.
Il faut aujourd'hui nourrir la population. Et d'ailleurs, on revient même sur les 4% de jachère qui sont prévus dans la politique agricole commune.
Et c'est 10% qui sont visés pour 2030.
Parce qu'il y a des enjeux, tout simplement, pour nourrir les gens.
Pierre Laroutourou, nourrir.
On n'est pas là pour polémiquer, mais le sujet est quand même trop important pour qu'on raconte des blagues. D'abord, sur la question de la politique agricole commune. Pendant 31 ans, on a protégé le revenu des paysans. Moi, j'ai travaillé avec Michel Rocard. Michel Rocard, qui était ministre de l'Agriculture, s'est battu pendant 2 ans contre les Anglais, contre la droite, pour mettre en place un système qui s'appelait les quotas laitiers. Et pendant 31 ans, on a protégé le revenu des producteurs de lait. Il n'y avait pas besoin de subventions. On voyait chaque année le volume de beurre, de fromage, de poudre de lait dont on a besoin. Le prix était correct. Les gens vivaient de leur travail. Pendant 31 ans, c'est le secteur où il y avait le plus de jeunes agriculteurs qui s'installaient. Quasiment aucun suicide. Et ça fonctionnait sans subvention parce que les gens avaient un prix correct.
Revenez à cette loi, c'est la droite qui
a foutu en l'air ces outils. Pendant 31 ans, l'Europe, aujourd'hui, la première demande des agriculteurs, c'est reconnaître leur dignité par leur travail. Ils se font exploiter, le prix du lait s'effondre et par contre, les transformateurs font des milliards. Donc, c'est pas l'Europe. C'est quand il y avait des hommes et des femmes de gauche qui se battaient pour la dignité pendant 31 ans, on a protégé le revenu des agriculteurs.
Et c'est des gens de droite
qui ont supprimé ça. 2015, c'est Raffarin, c'est Barnier, et depuis 2017, on a une flambée des suicides. Mais c'est pas l'Europe qui est responsable. C'est des gens de droite.
Cette loi pour la préservation de la nature, c'est exemple concret aussi tout pour nos auditeurs et nos auditrices sur tout ce qu'on peut faire justement au niveau européen quand on vote précisément.
Bien sûr, donc on a quand même réussi à la faire passer, comme elle l'a dit Lucille, à une voix près, même si la droite avait cassé des choses importantes. Et encore une fois, la question est de savoir comment est-ce qu'on aide les gens. Les agriculteurs ne sont pas stupides. Ils voient le copain qui est en train de mourir d'un cancer. Ils voient leurs enfants qui disent « mais tu es asphyxié par un système, tu n'as plus ta dignité ». Donc il y a des centaines et des milliers d'agriculteurs qui voudraient fonctionner autrement. Et au lieu de les prendre pour des imbéciles en disant « on ne fait aucun effort, on continue comme ça jusqu'au chaos », eh bien plutôt, la plupart d'agriculteurs voudraient qu'on les aide à transformer leurs pratiques pour eux-mêmes, pour leur qualité de vie.
Pierre Larouturou, à vous écouter depuis tout à l'heure, déjà vous disiez c'est pire que ce que le GIEC prévoyait. Alors non, c'est conforme à ce que le GIEC prévoyait, la situation climatique, pour la petite histoire. À vous écouter tout à l'heure, on a l'impression que l'écologie avec l'Union européenne ne réside que dans la question de l'agriculture. Est-ce que c'est le cas, Lucille Schmitt, ou est-ce qu'il y a plein d'autres questions et enjeux derrière ça?
Moi, je pense que ce qui est important, c'est de dire d'abord que l'Union européenne a été pionnière sur les questions écologiques avant même le pacte vert. On a l'impression que là, tout a commencé avec le pacte vert. Mais dès les années 70, l'Union européenne, parce qu'elle s'élargit, par exemple, au Royaume-Uni, à l'époque, dans lequel la culture écologique est forte de longue date, porte, par exemple, une directive oiseaux sur les enjeux de biodiversité, qui est une directive très importante. À l'époque, le Parlement européen n'est même pas élu. Ce sont donc quelques personnalités phares. Vous savez, en écologie, les lanceurs d'alerte, les individus motivés, les scientifiques, c'est essentiel. Ensuite, tout au long des décennies qui vont suivre, l'Union européenne va construire des politiques à la fois climatiques fortes, notamment en étant moteur dans le pacte de Kyoto, protocole de Kyoto sur lequel les États-Unis, en revanche, ne signent pas. Donc il y a un enjeu très important sur ces questions climatiques. Il y a aussi quelque chose d'essentiel sur les enjeux de transformation en fait, du modèle économique. Et ça se construit progressivement avec les zones Natura 2000. Donc les enjeux de biodiversité sont toujours présents. Et puis, à partir de la fin des années 2000, autour de 2008, il y a ce pacte en fait sur les questions énergétiques sur lesquelles on dit il faut faire du renouvelable, il faut réduire en fait la production d'énergie et puis il faut modifier notre régime économique. Donc en fait ce qu'Ursula von der Leyen fait, et je voulais insister là-dessus, on fait pas de politique, mais ce qui est intéressant c'est que quand elle reprend le terme de pacte vert, en fait de Green Deal, quand on le dit en anglais, c'est qu'elle reprend quelque chose qui était dans l'air du temps, porté notamment par les Verts allemands de très longue date, parce que en Allemagne, autour des régimes de coalition, un certain nombre d'écologistes avaient fait alliance avec des gens de droite ou de gauche. Donc il y avait la capacité à imaginer que l'écologie pouvait être une sorte de pacte transpartisan. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, je dirais, pas dans le logiciel européen où on travaille souvent en coalition, mais nouveau dans le logiciel écologique. Et donc c'est un lien entre économie et écologie qu'il faut faire, et c'est essentiel de continuer à le faire et de ne pas penser que c'est, entre guillemets, un sujet de clivage.
Anne Sander, justement, à propos de clivage, on a quand même le sentiment aujourd'hui qu'il y a largement des voix anti-climat qui s'installent très largement au niveau de l'Europe. Pourquoi l'action climatique européenne, précisément, a tendance à être vécue aujourd'hui comme une contrainte, comme quelque chose de lointain? Qu'est-ce qui se passe au fond pour qu'on soit aussi démotivé, voire critiqué sur ce terrain de l'écologie? Il n'y a pas assez de lisibilité sur cette
thème? Non, mais je crois surtout qu'on est allé trop loin. Au départ, tout le monde partageait ses objectifs climatique. Mais on a bien vu pendant 4-5 ans, eh bien, les mesures contraignantes, normatives, les surtranspositions, eh bien, se sont accumulées, laissant toujours entrer, eh bien, les produits venant du reste du monde et ne respectant aucun de nos standards. Donc c'est vraiment la double peine pour nos producteurs. Et en même temps, on a vu aussi, porté par la gauche, porté par les macronistes français, une espèce d'idéologie de la décroissance se développer en disant, eh bien, on va arrêter de produire et on va régler le problème du climat.
Les macronistes français prônent la décroissance ?
Ah ben c'est clairement, les macronistes ont voté, d'ailleurs ça a été dit, à 90%, Madame Hayé le disait, à 90%, elle a voté avec les socialistes au Parlement européen. Et ce sont notamment M. Canfin, président de la Commission de l'Environnement, lui qui a porté avec
et
ses
ça,
collègues
produire
français...
Produire moins, c'est pas un argument que vous entendez au PPE
non,
chez les Républicains.
Nous pensons, au contraire, nous pensons qu'il faut produire davantage, qu'il faut produire mieux, mais qu'il
mais
faut produire
davantage. Mais comment c'est compatible avec le climat, justement?
Parce que,
produire davantage,
eh bien,
donc émettre plus de gaz à effet de serre.
Investir davantage dans les nouvelles technologies pour produire de manière
plus vertueuse.
Avec quelles ressources on produit s'il y a des limites planétaires qui sont atteintes ?
Ça passe par exemple par des nouvelles techniques génomiques, ça passe par l'agriculture de précision, ça passe par une irrigation au goutte à goutte. Donc c'est par ces moyens-là que ça passe. Et on ne va pas simplement arrêter de produire quand il faut nourrir les gens. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois ?
Mais au-delà de l'agriculture,
Alors on peut prendre d'autres sujets.
Si on prend la consommation de textiles, par exemple,
les mesures décidées au niveau européen sur la performance énergétique des bâtiments. Là, ce texte-là, par exemple, c'est un texte que nous n'avons pas voté parce que c'est un texte qui était trop contraignant en termes de normes, parce que aujourd'hui, nos concitoyens n'ont pas les moyens de se payer une mise aux normes de leur bâtiment.
Justement, il faut les aider. C'est la question des aides.
C'est de la folie, ce recul.
On peut dire, on aide, on met en place d'autres clauses, etc. Mais qui finance derrière ? Aujourd'hui déjà,
c'est la grande question.
On n'arrive pas à dégager des financements pour des règlements de base.
Alors, la question du financement de l'Europe, elle est absolument centrale. On va y venir dans un instant, parce qu'il faut prendre le temps d'en discuter. Et pour l'instant, il est 14h30. Donc, nous allons écouter Camille Cronier, sujet sur lequel vous allez rebondir. Et juste après, on parle justement de la question du financement de l'écologie par l'Europe.
France Inter, la Terre au carré.
Et donc, nous passons au vert, Camille.
Et le Premier ministre, au milieu de la masse de courriers qui arrivent à Matignon chaque jour, a reçu une lettre spéciale qui sort du lot et a fait beaucoup parler il y a tout juste une semaine, mardi 2 avril. Une lettre du Haut Conseil pour le Climat, cette instance indépendante, voulue par Emmanuel Macron après sa première élection, pour évaluer les politiques climatiques de la France. Objet de la lettre, réaffirmer l'engagement climatique de la France avec une trajectoire lisible et mobilisatrice. Lettre dans laquelle les 12 membres représentés par leur présidente Corinne Le Quéret écrivent, ouvrez les guillemets, le Haut Conseil pour le Climat ne peut que s'inquiéter du risque de recul de l'ambition de la politique climatique induit par les dérives de calendrier de ses instruments les plus structurants. Et ce n'est pas tout, voilà ce qu'il affirme aussi. De multiples aléas vont continuer à s'intensifier à mesure de la poursuite du réchauffement planétaire et la France n'est pas prête à y faire face. Le niveau d'urgence actuel, tant en matière d'atténuation que d'adaptation, invite à réaffirmer fermement et sans délai la politique climatique de la France. Donc, petit coup de pression à Gabriel Attal, assumé par la climatologue Valérie Masson-Delmotte, membre du Haut Conseil.
C'est notre rôle. On est là pour évaluer l'action du gouvernement français vis-à-vis du changement climatique. Et on est inquiet en fait d'un décalage d'un certain nombre d'actions qui étaient prévues.
À commencer par la publication de 5 documents très importants. Alors vous allez voir, c'est un peu jargonneux, mais c'est important. La loi de programmation énergie-climat, la stratégie française énergie-climat, la 3e stratégie nationale bas carbone, le 3e plan national d'adaptation au changement climatique et enfin ce qu'on appelle la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie, le tout pour sortir d'une gestion de crise permanente. Corinne Le Quéret expliquait jeudi à Libération que ces documents sont attendus depuis des mois et qu'il n'y a aucune raison d'attendre autant parce que c'est pas du tout une surprise pour le gouvernement, on le sait depuis 2019, donc 6 ans. Mais pourquoi 5 ans, pardon. Pourquoi envoyer cette lettre là début avril et la rendre publique 2 jours après ? Le Haut Conseil serait-il en train de se politiser à l'approche des européennes et juste avant le début de la campagne ?
Non, on est très vigilant justement à rester dans un rôle, on va dire, constructif. On souligne les choses qui avancent, les choses qui sont effectuées et puis parfois les retards qui sont pris et on fait des recommandations pour améliorer l'action pour le climat. Mmh.
Bon, dans les inquiétudes, il y a aussi le recul sur le volet agricole et la non prise en compte totale de leur évaluation précisément sur le système alimentaire fin janvier en pleine crise.
Elle est arrivée à un moment vraiment délicat et sensible. Mais par contre, elle n'a pas fait l'objet d'une attention au gouvernement, c'est clair.
Et en parallèle, un peu trop de fanfaronnade, on va dire, de la part de nos dirigeants au sujet de l'annonce d'une baisse de 4,8% des émissions de gaz à effet de serre pour 2023. Valérie Masson-Delmotte, également ancienne coprésidente du groupe 1 du GIEC, hein, prévient...
Finalement, on pourrait se dire que tout va bien par rapport au rythme récent de baisse des émissions, mais une partie est due à des facteurs conjoncturels, le prix de l'énergie, le contexte d'inflation. Tout n'est pas le résultat de mise en place de changements structurels. Pour rappel, la France n'avait pas tenu son premier budget carbone, a revu à la baisse la cible du deuxième pour la période actuelle. Et si on tient compte de l'affaiblissement du puits de carbone forestier par la mortalité des arbres, la moindre croissance des forêts, mais aussi les incendies en 2022, on risque de ne pas réussir à tenir le second budget carbone. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle, mais ça n'est pas une raison d'arrêter en fait la motivation à agir.
Voilà, ne pas se relâcher. Et tout cela est bien basé sur des éléments factuels, il y a zéro idéologie. Mais question qui reprend un argument d'ailleurs souvent brandi, y compris par le gouvernement et même par le président. À quoi ça sert que la France fasse plein d'efforts si ça ne suit pas au niveau européen? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai risque d'inégalité en matière de compétitivité notamment? Voici la réponse de la climatologue.
Chacun a son rôle à jouer et il n'y a aucun signe qui suggère qu'il serait intéressant en termes de risques, en termes de cadre pour même la compétitivité des entreprises et ses différentes dimensions de ralentir la transition écologique. Je pense que c'est à chaque fois un mélange d'ambition mais aussi d'opportunité, ce qui peut être gagné et pas simplement l'effort à accomplir. Et puis tergiverser ne résoudra rien, c'est-à-dire tergiverser finalement ne peut que retarder ces transformations qui auront lieu et puis nous exposer collectivement en fait à des conditions climatiques plus difficiles à gérer à l'avenir.
La France a donc bien un rôle important aussi pour l'Union européenne, sorte de modèle réduit des enjeux au niveau mondial, un patchwork dont chaque pièce compte individuellement et collectivement. Il faut partager l'effort.
Il y a besoin de construire collectivement un cadre pour se fixer collectivement les objectifs à horizon 2040, sinon l'atteinte de la neutralité carbone sera hors de portée.
Et la trajectoire pour y arriver, c'est d'avoir réduit en Europe en 2040 par rapport à 90 les émissions de 90%. Et nous en sommes à la moitié du chemin.
Merci Camille Cronier.
Est-ce que vous pensez, Anne Sander, que quand vous dites qu'il faut continuer de produire, etc., c'est pas une forme de fuite en avant? Est-ce que finalement, c'est pas à la France en particulier de montrer le chemin? Parce que sinon, on va tous dans le mur en fait.
Mais aujourd'hui, en France, nous sommes déjà beaucoup plus vertueux et en Europe que par rapport au reste
du monde. Mais
tant mieux,
non?
Tant
mieux.
Mais ce n'est pas une raison pour reculer. Sur la production, prenez la production agricole aujourd'hui. Eh bien, nous produisons moins aujourd'hui, produisons moins de volailles, produisons moins de fruits et légumes. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens n'en consomment pas moins. Au contraire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le consommateur va chercher un produit moins cher à l'autre bout du monde. Donc, on peut se donner bonne conscience ici en disant on a fait les efforts, sauf que c'est plus cher pour nos concitoyens. Et derrière, on a des fuites de carbone parce que dans le reste du monde, les gens continuent à produire et beaucoup moins vertueusement que nous. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Et là, ce qui s'est passé avec le Green Deal et ce qui s'est passé en France, eh bien, c'est on est allé dans un excès. Et on a le retour du balancier. Aujourd'hui, il y a un rejet total parce qu'on a voulu être jusqu'au boutiste.
Alors, un rejet total de la part du monde agricole.
Pas seulement du monde agricole, pas le citoyen aussi. Tous les producteurs étaient derrière le monde agricole. Discuter avec les industriels. Regardez où en est notre industrie aujourd'hui. On n'a plus de production d'acier, d'aluminium, même les médicaments, le matériel respiratoire. Tout ça a quitté l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place des normes tellement contraignantes pour l'industrie, pour le monde de la production, que les gens sont allés s'installer ailleurs. Mais on peut se donner bonne conscience en se disant on a mis en place des
Valérie
normes.
Valérie Masson-Delmotte, elle nous dit, de toute façon, on aura beau lever le pied sur des contraintes aujourd'hui, tout va arriver et il faut s'y préparer de toute façon parce qu'on va droit dans le mur et ça va nous tomber dessus.
Un graphique que je montre tous les mois en commission des budgets au Parlement, c'est le nombre de catastrophes climatiques qui ont déjà triplé depuis 30 ans. Quand il y a des millions d'Allemands qui ont les pieds dans l'eau, quand les paysans en France n'ont plus de récolte, on met des milliards pour compenser le dérèglement climatique. Donc, il vaudrait mieux investir aujourd'hui dans la rénovation thermique, dans les transports en commun, dans les renouvelables, dans la sobriété.
Le coût de l'adaptation, il est moins important que le coût justement.
S'attaquer aux causes des émissions de CO2 nous coûterait beaucoup moins cher et créerait des emplois. Et c'est pour ça que c'est dramatique de voir comment la droite recule intellectuellement là-dessus. J'ai déjeuné l'autre jour avec l'ami Jean-Louis Borloo. Quand Borloo avait fait le Grenelle de l'environnement, c'était sous Sarkozy. C'était pas la gauche alternative. Eh bien, il y a eu un consensus au bout de 3 mois pour dire il faut faire 400 000 vraies rénovations rénovations thermiques chaque année. 400 000 vraies rénovations. Et tout le monde était d'accord.
Mais c'était dernier... pragmatique.
Pardon, oui, mais
c'est
pardon,
ça, la
je
différence.
Peux, vous avez eu des longs tunnels, madame, pour dire des choses. Voilà. Donc, désolé, mais justement, j'étais rapporteur général du budget au Parlement. J'ai fait voter des choses sur comment on trouve de l'argent. Une des questions clés, c'est comment on fait ces 400 000 vraies rénovations. Il faut qu'on aide les gens massivement. Une rénovation, c'est 40 000 euros. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 40 000 euros. Donc, le Parlement européen, et nous en particulier, on se bat pour qu'il y ait des financements. Quand le Parlement européen demande une taxe sur les transactions financières, c'est pour qu'il y ait des subventions, qu'on prenne 0,1% tous les jours sur les marchés financiers. L'ensemble du Parlement, sauf l'extrême droite, c'est pas juste mon combat. J'ai fait voter 3 rapports en 3 ans pour dire il faut trouver des aides.
Vous avez on fait a une grève de la faim aussi.
Oui, j'ai même fait une grève de la faim quand j'ai vu que c'était que la France qui bloquait. Mais c'est juste pour dire on a entendu les gilets jaunes. Il y a besoin d'argent pour les transports en commun, pour la rénovation thermique, pour aider les agriculteurs qui ont envie qu'on les aide à se transformer. Il y a besoin d'argent. C'est pas en augmentant le prix de l'essence qu'on va trouver des solutions. Dans mon coin des Pyrénées, il n'y a aucun transport en commun. Les gens sont obligés de prendre la voiture. Par contre, une taxe sur les marchés financiers, une taxe sur les milliardaires, oui, ça c'est possible et ça donnerait des aides financières.
Lucille Schmitt, pour réagir aussi au sujet de Camille avec Valérie Masson-Delmotte.
Oui, ce qui est passionnant dans ce que dit Valérie Masson-Delmotte, c'est qu'elle articule une approche scientifique avec l'idée de l'action. Et donc là, on est face à la question de l'action efficace face à l'urgence écologique. L'action efficace, c'est de conjuguer écologie et critères sociaux et économiques. Il ne faut pas qu'il y ait, d'une certaine manière, des mondes parallèles entre
donc
les
écologistes. Donc justice sociale et climat et biodiversité.
Et puis moyens économiques. C'est-à-dire que la question du financement, on va y revenir, mais c'est essentiel. Mmh. Et je pense que tout le débat sur les normes est un débat qu'il faut, d'une certaine manière, expliciter. L'Union européenne s'est construite autour de la norme. C'est une puissance fédérale, mixte entre les États et au-dessus des États, et le droit a été la manière d'édifier le projet commun. Et aujourd'hui, quand on se met à critiquer la norme, en disant par exemple que les États-Unis sont plus efficaces ou la Chine est plus efficace, il se trouve que l'Union européenne n'est pas un État. Et donc le sujet, c'est comment est-ce qu'elle peut articuler la norme à une stratégie financière et à une stratégie sociale. Et sur la question sociale, je voudrais insister là-dessus, l'Europe sociale n'existe pas ou très peu. Donc dès qu'il s'agit d'adosser l'écologie à la question sociale, ça implique une coordination entre ce qui se passe à l'échelle européenne et ce qui se passe à l'échelle nationale et locale en France, par exemple. On sait bien que les départements, par exemple, sont en charge de l'action sociale. Donc, comment est-ce qu'on fait ? C'est ça ce qui est important pour les élections qui viennent, pour articuler les États avec la question sociale, l'Union européenne avec une vision écologique, mais qui doit être partagée. Et donc, il y a un sujet de partage entre les États et l'Union européenne, et je trouve très malséant d'expliquer que l'Union européenne a mal fait parce qu'elle a fait des normes. Elle fait des normes, mais il faut articuler ça avec ce que font les États, et les États sont présents à l'échelle européenne pour faire des normes. Donc, je trouve qu'il y a un jeu de dupes qui a toujours existé entre les anti-européens, au sein des anti-européens, de dire on fait trop de normes à l'échelle européenne. Mais la vérité, c'est qu'on fait de la norme, que la norme peut être aussi prescriptive à l'échelle mondiale. Je voudrais insister sur le fait qu'on peut être les meilleurs avec une norme. C'est notamment ce qu'ont été beaucoup les Allemands. Donc, il faut arrêter de dire que la norme est en soi mauvaise. En revanche, la norme, lorsqu'elle n'est pas articulée à une stratégie sociale, une stratégie économique et financière, elle n'a pas, en fait, elle n'est pas appliquée. C'est ça qu'il
faut dire. On verra justement où trouver l'argent pour financer tout ça. Ce sont les enjeux écologiques des élections européennes, dossier de la Terre au Carré. This ain't Texas. Alexis, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. Huh. There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Sugar, homie, honey, too.
to the front.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh.
Oops, spurs.
To the flow now, ooh. To the floor now, ooh.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot.
Et c'était Beyoncé sur France Inter.
La Terre au carré. Le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier. Sur France Inter.
La Commission européenne renonce à réduire l'utilisation des pesticides. Ce retrait annoncé mardi par la présidente de l'institution marque la première victime législative des manifestations des agriculteurs. Un premier coup fatal au texte avait été porté en novembre lorsque le Parlement européen a rejeté la proposition. Mais l'urgence climatique et la perte de la biodiversité, dont la disparition des pollinisateurs essentiels pour l'agriculture, interroge dans les rangs écologistes sur la nécessité du retrait de ce texte.
Euronews, c'était en février dernier. Nos invités Anne Sander et Pierre Larouturou, députés européens, et Lucille Schmitt pour la Fabrique écologique. Anne Sander, la droite européenne, a obtenu donc le report de ce texte sur les pesticides, en surfant d'ailleurs sur la colère des agriculteurs et en brandissant l'environnement comme un épouvantail. Mais est-ce que la première menace qui pèse sur le revenu des agriculteurs, ça n'est pas justement la disparition des services rendus à la nature, liés à l'effondrement de la biodiversité, au changement climatique? Pourquoi vous avez voté contre ?
On a voté contre parce que le texte tel qu'il était proposé jusqu'au boutiste, eh bien, mettait en difficulté la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire en Europe. Aujourd'hui, les agriculteurs sont pleinement engagés dans les transitions. Les pesticides, les intrants, ils les ont diminués. Les produits phytosanitaires, on aimerait bien s'en passer, mais c'est comme lorsque vous êtes malade. Les antibiotiques, on en prend de moins en moins, mais le jour où il y en a vraiment besoin, il doit y en avoir. Et sur les produits phytosanitaires, la démarche doit être la même. Avec la proposition qui a été mise sur la table par la Commission européenne, et la définition des zones sensibles en particulier, eh bien, derrière, ça voulait dire que sur une grosse partie du territoire, il ne pouvait plus y avoir d'utilisation de produits phytosanitaires. Et moi, je ne pense pas que ce soit en interdisant un usage total qu'on puisse y arriver. Il faut réduire, c'est un mouvement qui est engagé et qui d'ailleurs va se poursuivre, mais il faut le faire de manière pragmatique.
Mais est-ce
et
qu'on ne perd pas aussi... du temps quand même ? Est-ce qu'on ne perd pas énormément de temps aujourd'hui par rapport, encore une fois, à l'effondrement de la biodiversité qu'on a là sous nos yeux et dont les agriculteurs témoignent tous les jours ?
Tout dépend de la vision que vous avez du monde. Nous, ce qu'on essaie d'avoir, c'est une vision globale, tenant compte évidemment de l'environnement, mais tenant compte aussi du besoin de sécurité alimentaire et du revenu
justement,
des agriculteurs.
Là-dessus, Laurent, on a beaucoup de messages, Anne Sander, qui s'adressent à vous. Laurent nous écrit, demandez à la députée républicaine comment on fera pour nourrir des gens plus tard sur des terres devenues stériles à cause des pratiques qu'elle propose. Jean-Joseph nous écrit, combien de tonnes d'alimentation finissent à la poubelle par an ? Anne répond, rappelant la dame qui dit qu'il faut nourrir la population, qu'on jette 30% de la production. Message également de Frédéric, pour info, les terres en jachère sont les plus mauvaises terres, ça ne sert à rien de les remettre en production, sauf à coup d'engrais chimiques. Le discours de produire pour nourrir la planète est has-been. Attachez-vous avant à réduire les pertes de volume et le gaspillage, donc. Il y a énormément de gaspillage aujourd'hui. On ne meurt pas. Enfin, il y a malheureusement des gens qui font la queue, qui n'arrivent pas à manger en France aussi. Mais c'est pas l'Europe qui meurt de faim.
Non, mais l'Europe a une responsabilité de nourrir le reste du monde. Et je vous l'ai déjà dit, on a laissé filer, non. On est dépendant de la production. Regardez sur les antibiotiques, regardez sur
mais
le Doliprane.
C'est deux sujets différents, madame. C'est deux sujets différents. Oui, il faut relocaliser les médicaments, pardon.
On a laissé filer. On n'avait même plus d'énergie. On pensait se retrouver sans électricité l'année dernière.
Mais là-dessus, il y a d'autres messages qui s'adressent à vous. Erwan, par exemple, vous l'étonnez à dire que le consommateur va chercher ses fruits et ses légumes à l'autre bout du monde, alors que, en fait, le consommateur, il se rend au supermarché en bas de chez lui et que ce sont les distributeurs qui, pour être les moins chers, vont chercher les choses à l'autre bout du monde. Ça, Lucille Schmitt, il y a un problème avec ça. C'est pas le consommateur.
Exactement. Moi, j'étais en train je voulais rappeler que la loi Egalim, qui a été adoptée au premier mandat d'Emmanuel Macron, faisait le lien entre l'alimentation et l'agriculture. Je crois qu'il faut arrêter de dissocier les deux éléments et, au fond, regarder les choses globalement. Moi, je voudrais pas non plus qu'on qualifie les pesticides d'antibiotiques. Je pense que c'est plutôt des poisons, en fait. Parce qu'il faut penser que le malade, c'est pas seulement l'être humain, c'est aussi la terre, les abeilles, etc.
Bon, il faut vous avez la jaunisse de la betterave, c'est une maladie pour la betterave.
Vous permettez
et
que
il faut trouver des solutions.
Je vais juste
soigner.
Terminer ce que j'ai à dire. Donc, je pense aussi qu'il faut arrêter de voir le monde agricole comme un tout et que lorsqu'on a réformé, par exemple, la politique agricole commune, on a fait le choix des grandes exploitations, on a fait le choix de continuer à subventionner là où il y avait le plus, au fond, déjà de richesses. Et tout l'enjeu, vous savez que lorsque la PAC a été créée à la fin des années 50, il y avait l'idée de donner un revenu décent aux agriculteurs. Au fur et à mesure, la PAC s'est égarée et aujourd'hui, elle ne donne plus un revenu décent aux agriculteurs, elle donne un revenu plus qu'indécent à certains agriculteurs. Donc toute la question, c'est ça. Arrêtons de dire des généralités et puis arrêtons d'avoir un discours hyper technophile et acceptons l'idée de la préservation, que quelque chose nous échappe, qu'il y a un mystère de la nature. Arrêtons de dire que nous pouvons tout maîtriser. Nous ne maîtrisons plus rien et c'est ça l'enjeu.
Pierre Larouturou, sur la question des financements, parce qu'il nous reste 12 minutes dans cette émission, vous avez été rapporteur général du budget donc pour l'Europe. Les moyens financiers, ils manquent. Comment on trouve l'argent aujourd'hui pour financer la transition? Jean Pisani-Ferry disait le 2 mars dernier dans une chronique, on a l'impression que l'Europe s'est fixé des objectifs, mais qu'elle se refuse à elle-même les moyens de les atteindre.
On est complètement d'accord. Que ce soit sur les questions de politique industrielle, pourquoi est-ce que l'industrie part aux États-Unis? C'est parce que Joe Biden a mis 360 milliards de subventions. Joe Biden veut attirer tout ce qui est hydrogène vert, nouveau photovoltaïque. Ils mettent 360 milliards de subventions.
Alors, combien il faudrait pour l'Europe, par exemple, pour arriver à la neutralité en 2050?
Avec Jean Jouzel et des grands juristes, on a rédigé un pacte finance climat qui permettrait d'avoir en gros 400 milliards chaque année.
400 milliards chaque année.
Ben oui, et la Cour des comptes européenne dit qu'il manque en gros 1000 milliards privés.
Qui viennent d'où alors les 400 milliards?
J'arrive tout de suite, pardon. Juste pour vous dire que l'ordre de grandeur, comme vous êtes étonné par où vous incitez sur l'ordre de grandeur, voilà, c'est la Cour des comptes européenne. La Cour, c'est plutôt des gens sérieux qui disent que si on veut rattraper le temps perdu, ce qu'il faut, c'est à peu près 1000 milliards chaque année, public et privé. Et ils insistent pour dire que c'est l'année prochaine. Parce qu'on se fait plaisir en disant 2050, mais la Cour des comptes européenne, comme la Cour de Karlsruhe en Allemagne, dit que ce qu'on n'aura pas fait avant 2030, ce sera très difficile de rattraper le temps perdu parce que les problèmes sont en train de s'aggraver. Donc, comment on trouve l'argent? Premièrement, avec des petites taxes, non pas sur monsieur et madame tout le monde, on a entendu les gilets jaunes, mais une taxe sur les milliardaires que propose Piketty. Le Parlement européen demande une taxe sur les transactions financières.
Et combien de la TVA? Combien on peut récupérer comme
là, 57
ça
milliards.
57 milliards.
57 milliards
rien
chaque année,
les,
rien qu'avec
les ultra-riches.
Non, ça c'est sur les marchés financiers, pardon. 0,1%, le rapport voté par le Parlement, tout le monde sauf l'extrême droite et une partie de votre groupe, madame, dit oui, tout le monde paye de la TVA.
Okay.
Même les gens qui dorment dehors payent de la TVA pour s'acheter un sandwich. Pourquoi est-ce que les marchés financiers ne payent rien du tout?
Donc 50 sur les 400 milliards nécessaires chaque année.
Tout à fait. Deuxième idée, c'est la taxe sur les transactions financières. On peut aussi avoir un impôt européen sur les bénéfices des grandes entreprises. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 50% en moyenne. 50%. Maintenant, on est tombé à 19%. Il y a une concurrence fiscale qui ne profite qu'aux milliardaires, y compris Alain Juppé ou Christine Lagarde. Son accord pour dire qu'on pourrait avoir un impôt européen sur les bénéfices des grandes entreprises. Pedro Sanchez a mis une taxe sur les super profits des banques et des pétroliers et ça donne quelques milliards.
Et là, on récupère combien ?
On peut rapporter plus, entre ça dépend de l'assiette, ça dépend du taux, mais vous avez entre 60 et 100 milliards. Et deuxième grosse source de financement qu'on propose dans ce pacte financier.
On est à peine à la moitié là.
Pardon, mais j'arrive, c'est utiliser autrement l'argent créé par la Banque centrale, ce qu'on appelle le quantitative easing. Quand vous et moi on était petits, on disait qu'il y avait des planches à billets qui faisaient de l'argent. Maintenant, c'est des ordinateurs, mais c'est pareil. Mario Draghi et Christine Lagarde ont créé plus de 3 000 milliards d'euros.
Donc, on sait toujours faire tourner la planche à billets.
Et donc, l'idée, tout à fait, l'idée, c'est que ces 3 000 milliards sont allés plutôt sur les marchés financiers à 90% et pas dans l'économie réelle. Et donc, on a rédigé avec des juristes, y compris des gens qui sont retraités de la Banque centrale et qui, comme citoyens, nous aident pour que ce qu'on dit soit solide. On montre comment on pourrait utiliser autrement l'argent de la Banque centrale et avoir 300 milliards de prêts à taux zéro chaque année. Donc, pour le transport en commun, pour la rénovation thermique, pour aider l'Afrique. Quand Borloo disait qu'il fallait permettre l'accès à l'électricité pour tous les Africains et Africaines, c'est un enjeu fondamental si on veut le développement de l'Afrique sans passer par le pétrole.
Alors,
ceux qui veulent plus de détails, vous allez sur changer-l'europe.com. Non, pardon, juste, même en parlant vite, je ne peux pas tout expliquer. Changer-l'europe.com, vous voyez les propositions
propositions qu'on fait, c'est tout à fait sérieux.
Anne Sander et Lucille Schmitt sur cette question essentielle quand même du financement du projet européen écologique. Comment on le finance, Anne Sander?
C'est une très bonne question, c'est un très beau programme. Dans 10 ans, il ne sera toujours pas appliqué. Mais en attendant, on continue.
Et pourquoi on propose un référendum pour le mettre en œuvre?
Parce qu'il n'y aura pas d'accord entre les États membres.
Justement, c'est pour ça qu'on propose un référendum, l'idée de Habermas.
Les textes européens, vous savez que là-dessus, il faut une unanimité.
Alors, comment on finance?
Moi, je n'ai pas aujourd'hui de solution.
Donc, quand on est député européen, on n'a pas d'idée sur le financement.
On a des idées, mais je dis clairement, aujourd'hui, on n'arrive pas à dégager de financement.
Oh, mais vous ne lisez même pas les rapports qu'on peut passer au Parlement.
Donc, bien sûr,
vous n'êtes pas pour une taxe, par exemple, sur les bénéfices des grandes entreprises ou les milliardaires?
Non, mais attendez, on a aujourd'hui des problèmes de financement au niveau européen. On peut se dire tout ce qu'on voudrait, mais on voit aujourd'hui qu'on n'arrive pas à avancer.
Mais vous ne répondez pas à ma question.
Mais en attendant, laissez-moi finir, parce que j'avais commencé avant. Donc, on n'a pas de financement, mais en attendant, eh bien, on continue à mettre des normes, et on ne se demande pas comment on va financer ces normes.
Alors vous êtes contre,
essayons de travailler.
Sur les profits des entreprises et les ultra-riches.
Ça dépend desquels.
50
aujourd'hui,
milliards, par exemple,
je
dégager.
Crois que nos entreprises, aujourd'hui, sont déjà très taxées.
Mais quand Total, par exemple, si je prends Total Energy, bat un record sur les dividendes versés aux actionnaires cette année encore. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire, même qui lancerait un message de justice sociale aussi?
Joe Biden a mis en place une taxe sur les rachats d'actions. Hein. Il a fait, ça marche aux États-Unis. Et vous n'êtes pas d'accord, mais Joe Biden a mis en place une taxe sur les rachats d'actions pour financer sa politique industrielle verte.
Alors, Lucille Schmitt.
Oui, moi, ce que je voulais dire, je trouve que le plan que propose Pierre Larouturoux est très intéressant et que certains aspects sont parfaitement opérationnels. Je pense qu'il faut rappeler une chose, c'est qu'il faudra une collaboration avec les États membres. C'est-à-dire que ce qu'il faut comme type de financement, je voulais rappeler que Jean Pisani-Ferry, il dit une chose. D'abord, il travaille à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle nationale et il dit qu'à l'échelle française, il faut pratiquement 70 milliards d'euros par an, mais en financement public et privé. Donc il faut bien avoir en tête qu'il y a à la fois la question du financement public, et si on extrapole, ce que dit la Cour des comptes européenne est au fond une espèce d'extrapolation des chiffres de Jean Pisani-Ferry, donc c'est un chiffre viable. En revanche, il faut bien envisager comment les entreprises privées, le secteur privé, aussi participent à ça. Il ne faut pas seulement voir les choses en termes de recettes publiques. Et ça, c'est essentiel. Et du coup, en ce sens, la question d'articuler la norme, la visibilité de la norme européenne de façon à ce que ceux qui sont pro-européens dans les entreprises et pro-écologistes puissent participer à ça, c'est un point essentiel. Donc c'est un enjeu de collaboration entre acteurs privés et publics, et c'est un enjeu de collaboration entre l'Union européenne, les États, et je voudrais insister là-dessus, les collectivités locales. Il faut que ça redescende, il faut qu'il y ait une circulation entre les échelles.
Que ça ruisselle, comme on dit aujourd'hui.
Non, je ne dis pas ça.
Camille Cronier.
C'est beaucoup de questions sur l'agriculture, sur franceinter.fr. Un autre message, la plaine d'Alsace est envahie de maïs. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez d'Alsace, Anne Sander. L'été, les tourniquets tournent à plein pour arroser, en puisant dans la nappe, nous sommes bien loin du goutte à goutte et l'agriculture de précision, ce dont vous parliez tout à l'heure. C'est une réalité, ça aussi. Comment est-ce qu'on transforme cette réalité en goutte à goutte dont vous parliez?
Là, clairement, il faut des investissements, il faut de la recherche, il faut de l'innovation. Sur la plaine d'Alsace, oui, je sais bien, mais il faut aussi reconnaître que le maïs est une culture qui est adaptée à la plaine d'Alsace, qui permet aussi de produire davantage.
Et la question de l'eau. C'est une culture très gourmande en eau, quand même.
Il faut aussi expliquer qu'on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. Je suis béarnais.
Je vais bien vous répondre sur la viande.
On n'est pas obligé de manger de la viande et surtout pas du bœuf.
Alors, d'abord, sur le bœuf et sur la viande. Moi, j'ai toujours défendu l'élevage et je continue à défendre l'élevage.
N'importe quel type d'élevage?
Non, mais attendez. Il y a différentes formes d'agriculture. Et aujourd'hui, notre agriculture et notre élevage est plutôt vertueux.
Très émetteur de gaz à effet de serre, quand même.
Moi, je ne suis pas favorable à la viande de synthèse ou au lait de synthèse, comme certains le prôneraient aujourd'hui.
Mais sans aller jusque-là.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur l'eau, il faut aussi qu'on comprenne que sans eau, il n'y a pas de production agricole. Après, il faut évidemment réfléchir à comment on gère le cycle de l'eau. Et il y a un certain nombre de projets qui sont engagés. Nous, au niveau de la région Grand Est, eh bien, on est en train d'y travailler, mais il faut apporter des solutions et voir comment on peut accompagner les agriculteurs pour une meilleure gestion.
Pierre Larouturoux, et question pour finir.
Question clé, comment est-ce qu'on débloque le système? D'abord, par exemple, sur la taxe, sur la spéculation, il n'y a que la France qui bloque, il n'y a pas d'unanimité, il n'y a que la France qui bloque. Et après ça, plus globalement, comment réorienter l'Europe? Ça fait 5 ans que je suis député, je vois bien comment le système est super lent, se bloque. Donc nous, à changer l'Europe, on reprend l'idée de Habermas, le plus grand philosophe allemand, qui dit l'Europe va crever si elle n'a pas un nouveau projet, et il propose qu'il y ait un référendum pan-européen, que les nouveaux traités, par exemple, est-ce qu'on crée une banque du climat, est-ce qu'on taxe la spéculation, que tous les peuples d'Europe soient consultés le même jour par un référendum pan-européen. Angela Merkel avait dit oui, ça, l'Europe va crever si on n'est pas capable de faire confiance et on a besoin d'un électrochoc démocratique.
Lucie Schmitt, c'est quand même le sujet de notre émission. Ça, c'est une façon d'impliquer pour vous les citoyens européens et français, par exemple, d'aller voter le 9 juin prochain. C'est ça, c'est vraiment les consulter directement de cette façon-là.
La question du référendum, elle est intéressante parce qu'en France, on se rappelle du référendum de 2005 qui avait abouti à un non à une constitution, mais qui n'était pas vraiment une constitution, très complexe, impossible à comprendre pour tout un chacun. Et je me rappelle que dans cette discussion, il y avait une espèce d'engouement pour la discussion sur les questions européennes qui était incroyable. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose si on a, un peu à la Suisse, le temps de préparer une forme de votation avec un vrai dossier. Alors, je ne sais pas si Pierre Larouturou nous fera ses courbes, etc. Mais en tout cas, ça peut être très intéressant d'avoir l'idée, au fond, d'en faire un exercice d'éducation populaire à l'Europe qui n'a jamais été pratiqué par les élites européennes. Ça me semble être un point vraiment essentiel.
Qu'est-ce que vous dites à nos auditoristes pour aller voter, justement, le 8 ou 9 juin, selon l'endroit où on se trouve
Eh bien, moi, j'espère qu'ils seront nombreux à se mobiliser
pour l'écologie, alors.
Pour choisir quel est leur projet européen pour l'agriculture, pour la production et pour l'environnement également, parce que ça forme un tout et qu'il faut avoir cette vision globale.
Pierre Larouturou, pour terminer.
Mais je voudrais que ceux et celles qui nous écoutent, qui doivent absolument avoir, je suis sûr, ils sont persuadés de l'urgence climatique, l'urgence biodiversité, est-ce que vous pouvez nous aider à faire campagne? On a 2 mois pour faire bouger les choses. On est les seuls à proposer ce référendum sur les climats. On est les seuls à proposer d'aller vers la semaine de 4 jours pour un nouveau modèle. Si vous pouvez nous aider, c'est sur changerleurope.com.
Lucille Schmitt, l'Union européenne, une vraie puissance écologique, vous y croyez? Ça peut le devenir?
J'y crois, mais je crois que c'est aussi une question de personne. En fait, on a besoin d'incarnation à l'échelle européenne. Vous aviez commencé en parlant de Greta Thunberg. Je pense qu'on a besoin de trouver, je ne sais pas si on peut dire des Greta Thunberg à l'échelle des institutions, mais ça serait intéressant qu'aujourd'hui, quand un ministre est pro-écolo, par exemple, il soit juste obligé de démissionner. Il faut changer ça et il faudrait, par exemple, qu'Ursula von der Leyen, qui avait commencé avec le pacte vert, ne soit pas dans le reniement.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Les enjeux écologiques des élections européennes, la fabrique écologique propose ce dossier sur son site. Et puis Pierre Larouturou, demain, on parlera de la semaine des 4 jours, justement. En tout cas,
un des sujets.
Non, vous ne reviendrez pas. On en parlera sans vous. Mais c'est l'objet d'un livre qui sortira le 3 mai au Seuil.